Juges chapitre 8, versets 1 à 4. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon que s'il fit cette manière d'agir envers nous, pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ?» Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère s'apaisa. Verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Amen. Fatigués, mais poursuivant toujours. Voilà le titre de ce message ce matin. Comme vous le savez, et je ne vous apprends rien de nouveau, il y a des moments dans nos vies où continuer le chemin qui mène à quelque chose nous coûtera certains efforts. Et parfois, quand nous faisons le point sur ce coup, quand nous analysons ce coup, nous sommes parfois portés à croire que poursuivre ce chemin ne sert à rien. Atteindre un but n'est pas sans coût ni sans conséquence. Cela engendrera de la fatigue. Ça engendrera parfois de l'épuisement. Parce que qui dit fatigue dit épuisement. Qui dit épuisement dit aussi une diminution de force. Et parfois, nous sommes desséchés pour avoir tout donné. Il nous arrive parfois d'être fatigués. Il nous arrive parfois d'être épuisés. Il nous arrive parfois d'être diminués dans notre force, de ne plus avoir, comme on le dit, du jus en nous. Parce que nous avons tout donné. Nous sommes démêlés pour quelque chose. Et en comparaison avec la vie chrétienne, on se rend compte que, elle présente également un coût. Oui, la vie chrétienne présente un coût. Le Seigneur a déjà payé le prix. Mais pour marcher comme Dieu le veut, pour être à la gloire de Dieu, pour marcher d'une manière digne, d'une manière convenable, pour être ses témoins, ses fidèles à la gloire de Dieu, cela a également un coût. La marche chrétienne présente ce coût aussi. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui, dans cette marche, s'écoutent et baissent les bras. Parfois, on se sent fatigué, on se sent abattu, on se sent découragé. On ne sait plus quoi faire. On se dit, à quoi bon continuer? Combien de fois j'ai entendu, oui, pasteur, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais abandonner. J'en peux plus. C'est difficile pour moi. Mais on ne se rend pas compte que plus nous prononçons ces paroles, plus nous donnons du poids à l'ennemi de nos âmes. Pourquoi? Parce que lui, il attend qu'une chose, c'est que nous tombions dans le découragement, c'est que nous soyons abattus, c'est que nous soyons attristés. Et lorsque nous sommes dans cet état-là, lorsque il y a ces pensées-là qui fusent dans notre esprit, on ne voit plus rien que ce désir de tout abandonner. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui doit nous susciter en nous un élan d'avoir nos yeux rivés sur la personne de Jésus. Il a fait cette promesse à ses disciples, « Je m'en vais et je reviendrai vous chercher. » Nous avons là cette assurance de la part de notre Seigneur. Il y a là cet encouragement et quand nous passons des temps de difficulté, des temps de fatigue, des temps parfois même de lassitude, des temps d'inquiétude, des temps d'épuisement, quand nos forces sont diminuées parce que nous avons tout donné, parce que devant nous, nous ne voyons pas les choses évoluer et que nous nous disons, oui, nous allons, je vais laisser tomber, je vais découvrir. décrocher, je vais abandonner. Quand il y a ces pensées qui viennent, frères et sœurs, rappelons-nous de cette parole de Jésus. Je m'en vais et je reviens vous chercher. Et puisque le Seigneur revient nous chercher, ne nous arrêtons pas en cours de route. Puisque le Seigneur revient nous chercher, efforçons-nous. Et ce matin, j'aimerais nous encourager, frères et sœurs. J'aimerais que nous encourageons. Voilà, chacun pourra s'encourager personnellement et dire, oui, il y a eu cette pensée d'abandonner, cette pensée de tout lâcher, cette pensée de décrocher. Et même ce matin, il y a quelqu'un qui pense, alors que la situation est difficile, tu te dis, oui, à quoi bon continuer? Au milieu de nous, quelqu'un pense décrocher. Quelqu'un pense abandonner la course. Quelqu'un pense lâcher la main du Seigneur. Mais j'aimerais t'encourager à la lumière de la parole de Dieu. Il est dit de Gédéon et de ses 300 compagnons, ils étaient fatigués. Ils étaient à bout de souffle. Il n'en pouvait plus. Mais cette parole est une parole d'encouragement pour nous ce matin. Et j'aimerais te le dire, oui, tu es fatigué, mais reprends courage. Poursuis la route, poursuis le chemin à cause de la récompense qui nous attend là-haut. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, contient des promesses que le Seigneur fait à ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Il y a cette phrase qui devrait retenir notre attention à celui qui vaincra. 8 fois dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, verset 11, verset 17, au verset 26, au chapitre 3, verset 5, verset 12, verset 21, et au chapitre 21, verset 7, cette parole revient à plusieurs reprises à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Frères et sœurs, à celui qui vaincra. Fatigué, mais poursuivant toujours, le Seigneur est en train de dire à celui qui ira jusqu'au bout, à celui qui ne s'arrêtera pas en cours de chemin, à celui qui ne se laissera pas décourager, à celui qui, malgré tout, se dit, j'ai mes regards fixés sur le Seigneur, j'ai mes regards sur le but, je m'attends à la grâce de Dieu et la récompense m'attend là-haut, à celui qui vaincra. Vous savez le mot vaincre? En grec, c'est le mot nikao, et il signifie remporter la victoire. Il signifie être victorieux. Et ce mot est en rapport avec le Christ qui a été victorieux à la croix. La parole de Dieu nous dit que sur la croix, il a dépouillé les puissances des ténèbres et il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé de tout. Et oui, à la croix, Christ a triomphé. Si nous pouvons être là ce matin, c'est parce que Christ a triomphé. Le Seigneur ne pouvait pas proclamer, il ne pouvait pas exhorter ses fidèles, ses enfants, en disant « celui qui vaincra ». Si lui n'avait pas vaincu, c'est parce qu'il a vaincu que nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur parce que lui, il a vaincu. Et ce mot est aussi en rapport avec le croyant qui par la foi, fait reposer sa foi, même jusqu'à la mort, contre le pouvoir de leurs ennemis, contre les tentations, contre les persécutions. Alors, frères et sœurs, cette parole nous est adressée à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui remportera la victoire, qui ira jusqu'au bout, à celui qui sortira en dépit des circonstances, en dépit de tout, qui sortira victorieux. Pouvons-nous sortir victorieux en abandonnant la course? Pouvons-nous remporter la course en restant en cours de route? Actuellement, c'est les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques. Et les hommes et les femmes courent pour quelque chose de matériel, pour un prix périssable, pour de l'or, pour de l'argent. Et aujourd'hui, on compte celui qui a le pays qui a le plus d'or et d'argent. Les hommes courent à la recherche de ces choses-là. Mais nous, rappelons-nous, comme Paul le dira, voilà, il y a un prix inestimable qui nous attend là-haut, un trésor. Voilà, nous n'avons pas été rachetés par de l'or ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Et à cause de cela, nous devons, frères et sœurs, de nous atteler, à ne pas nous baisser les bras, à ne pas nous arrêter en cours de route, parce que la couronne de vie, voilà, la couronne d'espérance, ce que le Seigneur nous a réservé dans le ciel, vous savez, ce n'est pas en baissant les bras ici que nous allons recevoir notre couronne. Notre récompense, c'est là-haut, quand nous irons jusqu'au bout. Quand il va y avoir cet encouragement en disant « Seigneur, tu vois tout ce qu'il y a autour de nous. Tu vois les difficultés dans lesquelles je suis. Tu vois cette circonstance dans laquelle je suis et aujourd'hui même quelqu'un est dans une situation de maladie et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Et actuellement, vous êtes en train de vous poser la question. » J'aimerais vous encourager. Le Seigneur connaît votre souffrance. Le Seigneur voit votre difficulté. Mais le Seigneur vous dit qu'il est là avec vous. Il est là avec vous. Il ne nous abandonne pas. Et fatigué, mais poursuivant toujours. Voilà ce qui est dit de Gédéon et des 300 hommes que l'Éternel a choisis pour combattre les Madianites. Le contexte. Après la sortie d'Égypte, Dieu promet la terre promise à Israël. Il va y avoir une succession d'événements. Et nous voyons que Dieu a été fidèle dans ses promesses envers Israël. Il n'a failli en rien. Mais malheureusement, le peuple n'a pas tenu ses promesses. Déjà, à la fin du livre de Josué, nous voyons là le peuple qui a pris une décision solennelle. Il a pris un engagement vis-à-vis de son Dieu. Il voulait demeurer fidèle, il voulait rester fidèle. Mais une fois entré dans le pays promis, où il devait là maintenant jouir de toutes les bénédictions qu'offre ce pays, là où coule le lait et le miel, lorsque Israël est arrivé dans ce pays, Il a commencé à perdre ses convictions spirituelles. Il a commencé à se détourner de son Dieu. Il a commencé à désobéir. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui demandait de faire. Vous savez, en lisant la fin du livre de Josué et le livre des Juges, on se rend compte que il y a quelque chose qui est dommage. Pourquoi? Parce qu'Israël va obéir partiellement. Il obéit partiellement. Mais devant Dieu, c'est de la désobéissance. Ni plus ni moins. Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, il s'attend à ce que nous soyons fidèles jusqu'au bout. Et malheureusement, Israël obéit partiellement. Et là, il commence à se détourner en laissant d'autres choses prendre le pas sur sa vie. Quand nous laissons des choses pénétrer dans nos cœurs, petit à petit, on se détourne de Dieu. Que nous ne voulions ou pas. Dieu doit avoir la priorité dans nos cœurs. Il dira à son peuple, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. À cause de cela, puisqu'il a désobéi, Dieu livre le peuple entre les mains de ses oppresseurs. Mais c'est lui encore qui se charge d'accorder la délivrance et de conduire le peuple à la liberté et à la vraie adoration, en se servant de plusieurs libérateurs, dont Gédéon. Vous savez, les hommes doivent réaliser, mais encore plus le peuple de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous permettre de croire que Dieu fermera ses yeux sur notre désobéissance. Il ne fermera pas ses yeux. Et bien que nous soyons dans les temps de la grâce, d'autant plus que la grâce de Dieu qui est source de salut, elle nous responsabilise plus. Paul dira dans son épître à Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, « Elle nous enseigne à vivre selon la sagesse et la piété en renonçant à l'impiété, à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. » On va voir ensemble le choix de Gédéon et la situation du peuple. Gédéon était le cinquième libérateur choisi par Dieu après que le peuple fut livré entre les mains de Madian. Quand nous examinons la parole de Dieu, la vie de Gédéon, la situation dans laquelle le peuple était, on se rend compte que la tâche n'était pas facile pour cet homme-là. Pourquoi ? À cause de l'ampleur de l'oppression dans laquelle était Israël. Parce que la parole de Dieu nous dit, à cause du nombre des Madianites, ils étaient comme un essaim de sauterelles. Et à cause de cela, ils ravageaient tout sur leur passage, sans rien laisser à Israël. Tout ce que Israël plantait, les Madianites les dérobaient. Tout ce qu'ils, c'est comme des sauterelles, quand ils envahissent un champ, il ne reste rien, absolument rien. Et Madian était pour Israël comme des sauterelles parce qu'ils dévoraient tout. Et là, il va y avoir ce cri de désespoir. Israël, comme auparavant, depuis le jour où Dieu a décidé d'envoyer un libérateur, c'est parce qu'il a entendu le cri de désespoir, c'est parce qu'il a vu la misère, c'est parce qu'il a vu la souffrance, lui qui est un Dieu miséricordieux. Et là, il voit Madian, Israël crie à Dieu parce que Madian a tout ravagé. Et Dieu entend ce cri de désespoir. Frères et sœurs, quoi qu'il en soit, il prêtera toujours l'oreille à notre cri. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses détresses. Israël l'a vécu et là, voilà, il envoie Gédéon. Le cri de désespoir du peuple monte vers Dieu. Et Dieu choisit Gédéon, lui qui se sent petit, qui ne se sent pas à la hauteur, lui qui se dit « Je suis le plus petit de ma famille et ma tribu est la plus petite. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» Mais Dieu avait ses regards. Parfois, on se pose la question « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» Moi-même, je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Mais gloire soit rendue à Dieu, on peut s'appuyer sur la parole parce qu'on n'est pas là à cause de nos mérites, à cause de nos forces, on s'appuie sur la grâce de Dieu. Et sans la grâce de Dieu, je ne saurais pas me tenir là devant vous ce matin parce que je me réclame de sa grâce. C'est lui qui m'a choisi et je m'appuie sur lui. En aucun cas, je ne mettrai en avant mes propres forces, mes propres capacités parce que le Seigneur dira à son peuple, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu choisit, malgré tout, Gédéon, qui se considérait comme le plus faible. Et avec les 300, ils vont à la poursuite de ce peuple innombrable avec la tactique que Dieu avait communiquée à Gédéon. On peut lire au chapitre 7, versets 19 à 23. Il est dit ceci. Gédéon et les 300 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille, du milieu comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. La trompette, ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et des cris. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth Shitta, vers Stérera, jusqu'aux abords d'Abel Meola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Voilà le combat dans lequel 300 hommes se sont mis à poursuivre des milliers de personnes. Vous conviendrez avec moi qu'ils ne pouvaient qu'être fatigués. Ils ne pouvaient qu'être à bout de force. Parce que comment humainement c'est impossible. 300 hommes devant 100 000, plus de 100 000 personnes. Allez-y les poursuivre humainement. Mais c'est le combat dans lequel s'était engagé par la foi Gédéon et ses compagnons. Et nous arrivons au verset 4 du chapitre 8. Nous pouvons lire ce que nous venons de dire, fatigués, mais poursuivant toujours. Vous savez, même si le chemin vers la délivrance peut nous sembler parfois long et périlleux, soyons assurés de l'aide de notre Seigneur. Oui, il nous aidera toujours si nous avons nos yeux fixés sur lui. Quelle est l'ampleur de cette phrase « fatigué, mais poursuivant toujours » ? Ne voyons-nous pas là comme un encouragement ? Vous savez, car nous pouvons être fatigués physiquement. Ça nous arrive d'être physiquement fatigués. Nous pouvons être fatigués émotionnellement. Nous pouvons être fatigués psychologiquement. Mais, il y a une fatigue parfois que nous ignorons. C'est la fatigue spirituelle. Parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'effet que ça peut faire sur nous. Parce que quand on est fatigué spirituellement, les retombées sont sur nos vies. On le ressent sur notre physique. On le ressent émotionnellement. Et on peut être fatigué physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Et combien de fois, lorsque nous nous trouvons dans une fatigue physique, dans une fatigue émotionnelle, dans une fatigue spirituelle, nous trouvons là un argument d'abandonner la course. Nous trouvons là un moyen de dire, Seigneur, je ne peux plus. Et on murmure. Et parfois, malheureusement, les frères et sœurs subissent nos murmures parce que nous sommes tellement fatigués, nous sommes à bout de force. Et ce qu'on fait, c'est de toujours rabâcher ça sur les autres. À chaque fois, on pose la question, comment ça va? Ah, pasteur, ça ne va pas. Comment ça va? Ah non, j'en peux plus là, j'en peux plus. Vous savez, la réaction, elle est naturelle. Elle est tout à fait naturelle. Elle peut être même légitime. Mais si nous ne prenons pas garde, frères et sœurs, elle peut coûter de grandes victoires. Imaginez un instant. Lorsque Gédéon et ses compagnons ont mis le bazar dans le camp, les Madianites ont commencé à s'enfuir. Ils pouvaient se dire, ah là, voilà, c'est la victoire. On a dispersé le camp. Imaginez à ce moment-là si Gédéon s'arrêtait en cours de route. S'il s'arrêtait en cours de route, que se serait-il passé? Je vous pose la question. Que se serait-il passé si Gédéon, en voyant le camp se disperser, il disait à ses amis, hey, « Hé, les gars, vous savez, c'est bon, là, ils se sont enfuis. Allez, on retourne. » Que se serait-il passé? Dites-moi. Les Madianites, vous savez, quand si Gédéon s'était arrêté en cours de route au vu de la fatigue, et c'était légitime, hein, il pouvait s'arrêter parce qu'il était fatigué. Parce que 300 personnes pour suivre plus de 100 000 personnes, ah, ce n'est pas évident. Mais si Gédéon s'était arrêté en cours de route, les rescapés se seraient à nouveau rassemblés et ils reviendraient pour s'acharner sur Israël. Pourtant, Dieu, l'Éternel, avait fait cette promesse, voilà, à Gédéon. Lorsque Dieu a choisi Gédéon, il lui a dit, voilà, au verset, chapitre 6, verset 4, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous délivre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui, écoutez bien, et dit, va avec la force que tu as. Et qu'est-ce qui suit? Délivre Israël. Délivre. Dieu n'a pas dit à Gédéon, fais fuir les Madianites. Il a dit, délivre. Même si les Madianites se sont enfuis, ce n'était pas encore la délivrance. Il fallait que les Madianites soient exterminés complètement pour que la délivrance soit totale. Il y avait là une promesse faite à Gédéon et il ne pouvait se résoudre à s'arrêter en cours de chemin parce que Dieu lui avait fait cette promesse. C'est toi, Gédéon, qui iras et c'est toi qui délivreras Israël. Frères et sœurs, le Seigneur dira, Jésus dira à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi et je vous envoie afin que vous portiez du fruit. On peut mettre en parallèle la parole de Jésus et ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dira à Gédéon, je t'ai choisi, je t'envoie et le fruit que tu vas porter, c'est la délivrance d'Israël. Et le Seigneur nous dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous envoie afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Frères et sœurs, nous ne pouvons porter du fruit que dans la mesure où nous allions jusqu'au bout. On ne peut pas porter du fruit si, devant la fatigue, devant des circonstances qui nous bousculent, nous amènent à nous retirer, à être en arrière. Non, pour porter du fruit, il faut malgré tout fatiguer, mais poursuivant toujours. Il est là. C'est là la clé de notre réussite devant Dieu. Le Seigneur qui nous donne la force, fatigué mais poursuivant toujours. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Nous avons des objectifs, le Seigneur nous donne des objectifs. Et l'un de nos objectifs, c'est de refléter Christ, c'est d'être des instruments entre ses mains. Et devant ces objectifs-là, malheureusement, viendront des temps de découragement. Viendront des périodes difficiles, venant parfois même de l'ennemi de nos âmes pour nous freiner dans notre marche. Et parfois, que faire ? Quand on est dans cette situation, que faire ? On se poserait la question. Il m'est arrivé de me poser la question, et peut-être que vous vous êtes posé la question. Dois-je continuer ou est-ce que je dois m'arrêter? Ne vous est-il pas déjà arrivé de vous poser cette question? Qui ne s'est jamais posé cette question? Dois-je continuer ou dois-je m'arrêter? On se pose cette question. Et devant ces situations, vous savez, certains croyants se permettent parfois de se dire, puisque Jésus a tout accompli, puisqu'il a tout remporté à la croix, attendons de voir ce qui va se passer. Et ils attendent. Ils attendent. Mais qu'en est-il du Seigneur lui-même? Qu'en est-il de Jésus? Dans Jean chapitre 4, au chapitre 4, nous voyons cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Et au verset 6, il nous est dit que Jésus étant fatigué, même Jésus était fatigué. Donc ça arrive parfois que nous soyons fatigués. Donc, frères et sœurs, ne nous culpabilisons pas si la fatigue nous arrive un jour. Ne nous culpabilisons, nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots. Ça peut arriver que nous soyons fatigués. Jésus lui-même était fatigué et il est allé se reposer au pied du puits. Mais que s'est-il passé? Imaginons Jésus devant la fatigue en voyant cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il est venu sur la terre afin de sauver les hommes. C'était sa mission. Mais devant la fatigue, il ne s'est pas laissé arrêter dans son élan de faire connaître Dieu et conduire les hommes au salut. La preuve en est que même devant la fatigue, il va y avoir cette discussion avec la Samaritaine. Pourquoi? Parce qu'il voyait là une âme à sauver. Même dans sa fatigue, Jésus ne s'est pas découragé dans sa fatigue. Il ne s'est pas arrêté. Frères et sœurs, dans notre fatigue, ne nous détournons pas de notre mission. Devant les difficultés, ne nous laissons pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes à sauver. Si nous avons été sauvés, c'est parce que des hommes étaient fatigués, mais ont poursuivi quand même. Jusqu'à ce que l'Évangile arrive à nous. Jusqu'à ce que nous soyons percutés par la puissance de Dieu. Jésus ne s'est pas découragé. Il est allé jusqu'au bout. La preuve en est que quand nous lisons, ce n'était pas uniquement le salut de cette femme que Jésus entrevoyait. Il voyait loin. Verset 39 de Jean chapitre 4. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester avec eux. Ils pouvaient se dire, Jésus, ah non, les gars, écoutez, vous rigolez ou quoi? Je suis fatigué, moi. Laissez-moi tranquille. Déjà, Jésus pouvait dire, écoutez, moi, je n'ai rien à faire avec vous. Vous êtes des Samaritains. Ah, eh oui, ne rigolez pas, moi, je suis juif. Je n'ai rien à faire avec vous, laissez-moi tranquille. Mais malgré tout, dans sa fatigue, il voyait le salut de cette ville-là. Et en poursuivant, il nous est dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole et ils dirent à cette femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur de l'humanité. Amen. » Ah, c'est ma fille, elle est intrépide. Voilà le but que Jésus s'était fixé. Le salut de cette ville, malgré qu'il soit fatigué. Rappelez-vous également de Jésus alors qu'il était dans la barque avec ses disciples. Il dira à ses disciples, allons de l'autre bord. Mais quand nous lisons la suite, il nous est dit, il était fatigué et il est allé dormir à l'arrière. Et pourtant, même fatigué, il dira à ses disciples, allons de l'autre bord. Vous savez, quand on s'arrête à là, on ne comprend pas la vision de Jésus. Mais quand nous lisons ce qui suit, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre bord, qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir cet homme possédé, ce gadarénien, celui qui était rempli des puissances des ténèbres, celui qui était rempli de démons, qui était saisi lorsque Jésus passe de l'autre côté, il va faire face à cet homme-là. Jésus voyait ce que ses disciples ne voyaient pas, même dans sa fatigue. Frères et sœurs, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes découragés, nous ne voyons pas plus loin, mais le Seigneur voit plus loin. Voilà pourquoi je vous encourage et je m'encourage aussi et je me dis, Seigneur, quoi que je sois fatigué, quoi que parfois je sois découragé, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Lorsque Jésus est allé de l'autre côté, il fait face à cet homme-là. Et s'en suivra la délivrance. Cet homme va être délivré. Celui qui était possédé va revenir dans son bon sens. Voyez-vous, frères et sœurs, que dire des souffrances de Jésus qui aurait pu l'arrêter en cours de route? Les souffrances font parfois partie, et ça fait partie, pas parfois, ça fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. Et Jésus l'a démontré, car l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 10, nous dit que voilà, Jésus a été élevé à la perfection par ses souffrances. Pour ceux qui étaient là à la réunion de prière vendredi, j'ai fait mention de cette partie des Écritures dans Marc au chapitre 14, où Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il était à quelques heures de son arrestation, de sa crucifixion. Il savait que quelque chose allait arriver. Et là, il prend Pierre, Jacques et Jean. Et regardez ce qui va se passer. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et écoutez bien. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » La condition de Jésus, il le dira lui-même, il a commencé à éprouver de la frayeur et de l'angoisse jusqu'à être triste jusqu'à la mort. Frères et sœurs, quand nous passons parfois par un temps, une situation pareille, où c'est l'angoisse qui prend le dessus, ou c'est la frayeur, ou c'est la tristesse, quel est notre réflexe premier? Quel est notre réflexe? On n'a plus goût à la vie. On n'a plus goût à la vie. On veut tout laisser tomber. Parfois, on se dit à quoi bon vivre? À quoi bon poursuivre la vie? Mais Jésus, même dans ces temps de difficulté, alors qu'il avait une mission à accomplir, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. à quelques heures de sa crucifixion, de son arrestation, il éprouve de la frayeur, de l'angoisse, il est triste jusqu'à la mort, mais il trouve quand même de la force, Jésus, d'aller jusqu'au bout, d'aller prier, de réclamer la force au Seigneur, et il ne s'arrête pas jusqu'au bout. Si Jésus était resté là, en se disant maintenant, j'éprouve de la frayeur, j'ai des angoisses, je suis triste. Écoutez, les gars, bon, on retourne là. J'abandonne. Quel serait le résultat? C'est l'humanité tout entière qui serait plongée dans les ténèbres éternelles. Je répète, si Jésus s'était arrêté en cours de route, c'est l'humanité tout entière, vous et moi, qui serait pour toujours vouée à la perdition. Aucun de nous ne serait là. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Et même quand le diable a essayé de l'empêcher, il est allé jusqu'au bout parce qu'il fallait qu'il accomplisse sa mission. Et ce qui est important, frères et sœurs, même fatigué et chargé, même fatigué, découragé, attristé, ce qui fait notre force, c'est de réaliser que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés pour servir et nous sommes là pour être des témoins à la gloire de Dieu. Il dira à Jésus, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux toi. Ah, voilà ce qui a fait sa force. Voilà ce qui a fait la force de Jésus. Parce que sa vision, c'était d'accomplir la volonté de son Père, en dépit de tout ce qui était sur lui. Frères et sœurs, quand des temps de difficulté arrivent, lorsque nous passons par ces temps de découragement, ces temps d'attristement, ces temps où nous n'avons même plus goût à rien, on ne veut plus rien faire, on se déteste parfois, on se déteste nous, on se dit à quoi bon vivre, rappelons-nous ce que Jésus a dit, Seigneur, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Nous ne sommes là sur la terre, frères et sœurs, non pas pour faire ce que nous voulons. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et rien ne doit nous arrêter, rien ne doit court-circuiter ce désir de Dieu, cette volonté de Dieu pour nos vies. Il est notre modèle. Hébreux chapitre, excusez-moi de prendre le temps parce que c'est nécessaire ces choses-là. Parce que plus nous avançons, plus nous allons être confrontés à des situations pareilles. Alors que nous ne sommes pas encore à la fin, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Donc, nous avons encore du chemin. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 3. Voici ce que l'auteur nous dit. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il nous appelle, au lieu de considérer les difficultés dans lesquelles nous sommes, au lieu de considérer notre fatigue physique, émotionnelle ou parfois spirituelle, il nous dit de considérer ce que Jésus a enduré, parce qu'il est notre modèle. Fatigué, mais poursuivant toujours, il y a là cette exhortation, et je termine avec ceci, cette exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 12. Qu'elle est riche la parole de Dieu, et je m'émerveille à chaque fois que le Seigneur m'éclaire sur les choses le concernant. Verset 9, Hébreux chapitre 6. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, regardez ce que l'auteur dit en s'adressant à ses contemporains, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ah, elle est merveilleuse cette parole. Au lieu de laisser les hommes dans l'apitoiement, au lieu de laisser les hommes dans le découragement, au lieu de laisser les hommes dans leurs propres pensées en se disant « Non, il n'y a plus lieu de continuer », il va y avoir cette parole d'encouragement. L'Esprit de Dieu est un esprit d'exhortation, un esprit d'encouragement. C'est lui qui nous exhorte. Voilà pourquoi nous devons chaque fois de rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu et de toujours sonder les Écritures pour laisser le Seigneur nous parler. Quand nous avons des temps de difficultés, frères et sœurs, sachons tourner nos regards dans sa parole. C'est là que nous allons trouver l'exhortation. Il dira, rappelez-vous, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait, mais nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Fatigué mais poursuivant toujours, jusqu'à la fin. Une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi et la persévérance. Fatigué mais poursuivant toujours, voilà un état de fidélité. Vous savez, c'est parfois dans les temps difficiles que notre fidélité à Dieu est mise à l'épreuve. Parfois, nos amis sont là quand tout va bien. Mais lorsque nous passons par la difficulté, on reconnaît nos vrais amis. Souvenez-vous de ce que Jésus a subi. Avant la croix, Pierre se disait, « Seigneur, à Dieu ne plaise, rien ne t'arrivera, ce serait moi, je serai là pour te défendre. » Ne sais-tu pas que c'est moi, c'est Pierre. Mais lorsque Jésus va être arrêté, lorsqu'il va être mis devant le fait accompli, que s'est-il passé? Dans Marc au chapitre 14, verset 50, il est dit que tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Au lieu de poursuivre, au lieu d'aller jusqu'au bout, ils se sont arrêtés à cause de la difficulté. Fatigué mais poursuivant toujours, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La persévérance, c'est cette vertu-là qui nous aide à prier, à rester attachés au Seigneur et à son Église. Vous savez, l'Église primitive a été persévérante malgré les temps de difficultés qu'elle a subis. Elle a subi la persécution. Elle a subi des moments de difficulté. Mais dans Actes chapitre 2, verset 42, il nous est dit, ils persévéraient. Ils ont persévéré. Ils ne se sont pas laissés arrêter. C'était là le début de l'Église. Et si nous sommes là aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, dans ces temps de la grâce, nous devons nous rappeler qu'il y a eu des gens qui étaient fatigués, mais qui ont poursuivi, des gens qui étaient persécutés, mais qui sont allés jusqu'au bout. Ils ne se sont pas laissés arrêter. L'Église existe aujourd'hui parce que le prix de la persévérance et de l'endurance a été payé par des hommes et des femmes au péril de leur vie. Que l'Église que nous sommes aujourd'hui n'éteigne pas cette flamme-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous et nous avons besoin de donner ce goût-là à nos enfants, à ceux qui viendront après. Parce que tout ne s'arrêtera pas avec nous. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Fatigué mais poursuivant toujours, il y a là aussi un état de patience. Vous savez, la persévérance, ça va de pair avec la patience. On ne peut pas les dissocier. Celui qui persévère est patient. Celui qui ne persévère pas ne peut pas être patient. Et celui qui n'est pas patient ne peut pas persévérer. Je ne suis pas un académicien de la langue française, mais je sais que si on persévérait, on s'attend à ce que les promesses s'accomplissent. Et quand on s'attend à Dieu, on est là aussi dans un état de persévérance. La persévérance va de pair avec la patience. Et parfois, à cause de la longueur du temps, nous croyons que la solution, c'est d'arrêter. Mais par la patience, nous arrivons même parfois à surmonter l'insupportable. Je termine. Frères et sœurs, malgré les péripéties de la vie chrétienne, malgré les difficultés, ne laissons aucune fatigue ni rien de semblable nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur. À l'instar de notre Seigneur, nous pouvons être fatigués, mais rester fidèles. À l'instar de notre Seigneur, nous pouvons être fatigués, mais persévérer. À l'instar de notre Seigneur, nous pouvons être fatigués, mais patients en attendant l'heure de la délivrance. Elle arrivera. Le Seigneur nous a fait la promesse. Ce n'est que lorsque le Seigneur reviendra nous chercher que nous serons dégagés de toutes choses sur la terre. La clé pour poursuivre, c'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 7 à 10. L'apôtre Paul a vécu des moments difficiles et il aurait pu lui aussi s'arrêter en cours de route. Mais regardez ce qu'il va nous dire. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Persécutés, mais ils n'ont pas abandonné non plus. Abattus, mais non perdus. Portant toujours dans notre corps, elle est là la clé, portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Portant toujours dans notre corps la mort de Jésus. » Vous savez, quand on se détourne de la croix, tout va nous dégoûter. Quand je me détourne de la croix, je vais tout abandonner. Paul montre réellement que ce qui leur a permis de tenir debout, alors qu'ils étaient, ils étaient pressés de toutes parts, alors qu'ils étaient réduits à l'extrême, ils étaient dans la détresse, alors qu'ils étaient persécutés, alors qu'ils étaient abattus, ce qui leur a permis de tenir bon, c'est parce qu'ils ont laissé la marque de Jésus s'imprimer en eux. Jésus ayant pris sur lui notre souffrance, nos difficultés, pour que nous soyons dégagés et pour nous conduire vers le chemin de la vérité. Porter en nous la mort de Jésus, voilà une des clés pour poursuivre notre course. Et l'autre clé, il y en a plusieurs, c'est David qui le dira au psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ah Seigneur, tu te détournes de moi, je suis seul. » Non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi. Fatigué Seigneur, mais je sais que tu me renouvelles. Fatigué Seigneur, mais je sais que tu me restaures. Et c'est ce que le Seigneur Dieu va dire à Gédéon, alors qu'il était là à bout de force dans Juges au chapitre 6, verset 14. Il se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset suivant. Gédéon lui dit, « Ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. » Je termine avec cette parole. L'Éternel répondit, « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Voilà le mot de la fin, frères et sœurs. Fatigué, découragé, attristé, abattu. Nous sommes parfois, comme on le dit dans notre jargon, on est pompé. Il n'y a plus de jus en nous. Rappelons-nous, même dans cet état-là, le Seigneur est avec nous pour nous donner la force d'aller jusqu'au bout. À lui soit toute la gloire. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, parce que je suis certain que le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Même celui qui est avancé en âge, vous êtes fatigué, mais poursuivez le chemin. Le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Il y a des âmes qui ont besoin d'être touchées, d'être sauvées dans cette ville de Gap. Et nous avons cette responsabilité d'être là pour que le Seigneur se serve de nous. À lui soit toute la gloire. Amen. Quel encouragement, Seigneur, de savoir que nous pouvons trouver dans ta parole des moyens de nous ressourcer convenablement. Seigneur, ta parole est riche. Elle est pleine d'exhortations et d'encouragements. Et je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu nous as laissé ta parole. Seigneur, bénis chacun. Oh, si quelqu'un est entré dans ce lieu fatigué et avec cette pensée d'abandonner, avec cette pensée, Seigneur, de lever le pied. Si quelqu'un, Seigneur, en dépit des difficultés, ne se voit pas, continuer la course, Seigneur, rappelle-lui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette espérance glorieuse qui nous attend là-haut. Mais rappelle-lui également, Seigneur, que tu es avec lui. Seigneur, je te prie encore, renouvelle les forces de tout un chacun. Et bénis ton peuple, Seigneur. Tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, oh, encourage ton peuple. Oh, ne permets pas que quelqu'un ici présent, Seigneur, fixe les yeux sur la terre, mais au lieu de baisser la tête, Seigneur, que nous levions les yeux et que nous contemplions ta gloire. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Reçois notre louange. Merci, Seigneur, pour ta présence. Et bénis ton peuple encore, à toi seule la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, on repart, on est venu peut-être fatigué, mais on repart avec la force que le Seigneur nous donne. À lui soit toute la gloire. Amen.